Bonjour Nathalie Ray.
Bonjour.
Vous êtes coach en entreprise. Vous avez changé en fait de métier. Vous étiez d'abord dans le milieu financier.
Tout à fait.
Donc est-ce que vous voulez déjà nous expliquer ce qui a motivé ce changement professionnel ?
Alors il y a eu, une conjonction d'histoires. L'histoire professionnelle, qui est une histoire simple, c'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai fait un master 2 en économie et gestion d'entreprise. J'ai donc travaillé dans les banques, j'ai fait du financement d'entreprise, donc logique par rapport à la formation que j'ai faite. Mm-hmm. Et ma vie personnelle en parallèle avec un garçon, Maxime, qui est né donc il y a 25 ans maintenant et qui est né dyspraxique. Et donc, la question s'est posée tout le long de l'éducation que j'ai et l'accompagnement que j'ai fait avec mon fils, de comment l'aider et comment fonctionne ce fameux cerveau d'un enfant dyspraxique. Donc du coup, je cheminais professionnellement et en même temps, je cheminais sur le plan de ma vie personnelle. Et à un moment donné, j'ai fait de l'accompagnement d'entreprise, j'ai fait du financement. En 2008, il y a une crise financière qui m'a fait réfléchir sur mon métier. Et je me suis dit que ce que je savais faire, je pouvais peut-être, plutôt que le mettre au service des banques, peut-être privilégier l'accompagnement des entreprises avec les connaissances que j'avais de la banque, pour permettre justement de pouvoir avoir un dialogue entre banques et entreprises, surtout les PME-TPE, de façon à ce qu'ils puissent dialoguer avec leur banque et avoir une bonne connexion avec leur banque.
Donc, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait déjà des problèmes en fait dans les grandes structures au niveau de la communication, au niveau...
En fait, un dirigeant d'entreprise de TPE-PME est un très bon technicien au départ, qui connaît parfaitement son métier. Par contre, il n'a pas appris à être chef d'entreprise. Donc tout ce qui est technique, déjà analyser son bilan, l'expliquer, il ne sait pas le faire. Il sait expliquer son métier, il sait comment il fait une marge, il sait comment il vend, comment il établit ses coûts. Mais par contre, il ne sait pas dialoguer avec le technicien bancaire qui, lui, va lui trouver des solutions financières pour pouvoir accompagner l'activité de son entreprise. Donc l'idée, c'était plutôt que je voulais faire un pont entre la banque et l'entreprise, grâce, moi, à mes connaissances de bancaire, d'économiste aussi, et en même temps, la connaissance plutôt précise de l'entreprise, parce que mes parents étaient chefs d'entreprise. Donc je sais aussi quelles étaient les problématiques que j'entendais à la maison. Et donc ces problématiques-là, je les retrouvais chez mes clients. Donc en 2008, je suis partie, je me suis associée dans une société de conseil d'accompagnement. Mm-hmm. Et toute la durée de toute cette période-là, j'ai constaté que l'accompagnement, il y avait des nécessités de technique, mais il y avait aussi une nécessité d'accompagnement humain. Et que l'accompagnement humain était pour moi devenait primordial.
Tout à fait.
Donc je voyais des dirigeants qui savaient pas trop manager, qui avaient pas appris à manager, des dirigeants qui se posaient des questions sur comment les équipes fonctionnaient, des salariés qui étaient pas forcément bien dans leur basket. Quelquefois, il y avait beaucoup de turnover dans l'entreprise, des conflits, des problématiques de productivité et d'efficacité au travail. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose à trouver. Plutôt de mettre des tableaux de bord, entre guillemets, bêtes et méchants, qui sont utiles, bien sûr, mais comment je peux faire pour être plus à l'accompagnement humain ? Et c'est là que j'ai décidé de faire une formation de coaching à la faculté de Toulouse Capitole. Donc sur 18 mois, avec un mémoire, etc. Donc une chose très un peu...
Bien sérieuse,
bien sérieuse. Je suis retournée à l'école. J'avais plutôt l'âge des professeurs que des élèves, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai commencé ce travail-là. Et j'avais toujours un fond d'écran, le vécu que j'avais en tant que maman, avec mon fils. Et donc je me suis dit, mais enfin quand même, ces émotions-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi j'ai un petit garçon qui gère pas bien ses émotions, donc je l'accompagne, etc. Et je me rendais compte qu'à l'entreprise, c'était un peu la même chose. Donc j'ai continué, alors j'ai fait l'étude du coaching, en même temps j'ai fait des formations un peu plus en EFT, des formations en Matrix, je me suis...
Donc l'EFT, pour expliquer à nos auditeurs,
oui.
Alors ça m'intéresse beaucoup, puisque c'est vrai que Zebrazane est une émission autour de la santé, ouais, des domaines holistiques. Donc l'EFT, c'est une manière de tapoter certains endroits,
de libération. C'est une technique de libération émotionnelle. qui tient compte en fait du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire les dernières recherches en neurosciences ont fait apparaître que le cerveau a une façon de fonctionner bien spécifique et qui donc enfin il y a trois parties dans le cerveau pour faire très très vite, le cerveau archaïque, le limbique et le néocortex, sachant que l'archaïque c'est ce qui régit toute la partie réflexe sur lequel on n'a pas de maîtrise du tout. Le limbique, on va dire que globalement, c'est tout le cerveau social et avec tout ce qui est, moi j'appelle ça la bibliothèque émotionnelle, tout ce qui est souvenir associé à une émotion et dans cette partie-là du cerveau. Et le néocortex qui est toute la partie réflexion, prospective, etc. Bon, après, droit-gauche, on n'en parlera pas, parce que ça va faire trop compliqué, mais enfin, globalement, c'est voilà.
Donc l'EFT, là-dedans, l'EFT permet de libérer des mémoires, en fait, émotionnelles.
Le cerveau limbique, en fait, il y a des espèces de schémas neuronaux qui se mettent en route. Je vous donne un exemple très simple. Si vous faites mordre par un chien à 2 ans, le chien est donc un gros chien, enfin, va être un gros chien de votre sensation à vous, et vous faites mordre, vous vous développez plus tard une phobie d'un chien, des chiens. Mais à l'âge adulte, les chiens, ils vous arrivent tout juste au genou. Bon, il y en a certains qui sont dangereux, mais globalement, vous avez peur de tous les chiens. C'est-à-dire que même le plus petit Yorkshire qui se balade dans la rue va vous faire bondir. Ça, c'est le schéma neuronal qui a été mis en place quand vous étiez tout petit, qui est dans le cerveau limbique et qui est donc un schéma traumatique. L'EFT va vous permettre de le libérer. Voilà, donc il y a aussi, les psychologues aussi utilisent le MDR, qui fonctionne aussi très bien, voilà, qui a été mis en place par M. Servan Schreiber, voilà, qui était un neuropsychiatre. Donc ça procède des mêmes choses, en fait, c'est des techniques qui sont axées sur le...
On peut libérer des chocs, des traumatismes, des émotions inscrites depuis longtemps.
Et c'est très efficace.
Grâce à des techniques, holistiques. Alors on va écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après Nathalie Ray, coach en entreprise, pour parler bien-être en entreprise. Something inspiring me when I feel lost, like a breeze pushing me through safe coast, a path to take, choices to make, making mistakes, get up with the feeling that the hardest fighting is taking place in our mind. The greater light is finding room to aim. I know that yesterday is not today. Life is not a play. Find a better place is a goal, a road that has to borrow. Although reality overwhelms me and my sins are walking near me, down the road I see the sun. Life is a path strewn with thorns. It is not clement to anyone. Every day I see so many men catching their foot in the roots and falling, making mistakes, get up with the feeling that the hardest fighting is taking place in our mind. The greater light is finding the moon to aim. I know that yesterday is not today. Life is not a play. Find a better place is a goal, a road that has to borrow. Although reality overwhelms me and my sins are walking near me, down the road I see the sun. Nous venons d'écouter les formidables Toulousains Human Songs avec le bassiste Pascal Selma et le chanteur Cyprien Zeny, dont les réputations ne sont plus à faire. Rebienvenue Nathalie Ray dans notre émission Zebrazen sur CFM. Alors j'aimerais que vous nous parliez davantage maintenant de ce que vous mettez en place concrètement dans les entreprises pour améliorer la communication positive, mais aussi la gestion des émotions, que ce soit des patrons ou des employés d'ailleurs.
Bien sûr. Alors, quand on parle de bonheur, de bien-être au travail, en fait, on s'est rendu compte qu'une personne heureuse était forcément beaucoup plus efficace.
Bien sûr.
Ça ne sert à rien de stresser quelqu'un, ça ne sert à rien de lui mettre la pression, parce que vous le rendez bête. Et ça, c'est un discours que je tiens systématiquement à tous les chefs d'entreprise que je rencontre, en leur disant, plus vous mettrez la pression à vos salariés, et moins ils seront efficaces. Vous dire, mais enfin, comment ça se fait? Ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Non, juste, quand quelqu'un rentre dans votre entreprise, c'est pas de faire l'assistante sociale, c'est juste de prendre en compte l'état émotionnel de la personne. Les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions sont un indicateur de votre état. Donc déjà, dans l'entreprise, lorsque j'interviens, si effectivement on identifie des tensions dans une équipe, ben en fait, je vais les faire jouer. Je vais commencer par détendre l'atmosphère, etc. Je vais les faire jouer, je vais trouver des choses pour pouvoir décaler en fait le sujet du stress éventuel que l'on peut ressentir.
Donc c'est des jeux de rôle, tu veux dire ?
Ça peut être des jeux, non, je les fais jouer au Capla, je les fais jouer au Lego, ça dépend, je les fais chanter quelquefois, je leur fais faire des chorales, voilà. Il y a des choses qui... ça dépend de l'état émotionnel de l'équipe. Et en parallèle, alors si je suis sur un coaching d'équipe, donc je monte le coaching d'équipe à partir des objectifs que le dirigeant me donne, c'est-à-dire s'il veut que ça se passe mieux, s'il veut que la productivité avance, qu'il y ait une meilleure organisation, etc. Donc je fais travailler les gens à partir de techniques créatives, toujours en essayant d'utiliser la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que d'associer une émotion à un souvenir positif et d'essayer d'aller avancer là-dessus. C'est-à-dire que notre cerveau, il a une bibliothèque émotionnelle très importante. Si je vous parle, par exemple, du souvenir d'enfance qui est le plus proche pour vous, ça va peut-être être le gâteau que la grand-mère faisait quand vous alliez le mercredi après-midi. Oui. Voilà. Donc avec ça, vous aurez la couleur des murs, vous aurez le sourire de la grand-mère, vous allez avoir l'odeur du gâteau, le goût, la texture.
Oui.
Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour pouvoir ensuite faire avancer une équipe. Alors ça semble complètement perché, j'ai bien conscience, mais comme j'ai quand même un cerveau droit très développé, je suis quand même une financière à la base, au départ. Donc je peux vous garantir qu'après, les gens sont beaucoup plus détendus et on trouve des solutions d'organisation et de fonctionnement qui sont beaucoup plus efficaces.
Oui,
parce que les gens s'intègrent et se sentent concernés par ce qu'on leur propose.
Il y a deux choses, en fait. Par exemple, le docteur François Baumann, dans son livre « Éliminer la souffrance au travail », il dit effectivement que trop peu de patrons prennent en considération l'état affectif de la personne et qu'on ne peut pas, en fait, juste considérer un employé comme un travailleur. On est obligé de considérer l'humain pour ce qu'il est.
Je vais donner un méchant chiffre. Si l'on tient compte de l'état émotionnel des personnes, si on développe de l'empathie, donc tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle, donc le développement de l'empathie, c'est tout ce que je décris, c'est pour développer l'empathie en équipe.
Il y a par exemple les livres de Daniel Goleman sur le sujet.
Tout à fait, c'est un vieux bouquin
sur l'intelligence relationnelle et émotionnelle.
C'est la base de ce bouquin, et effectivement c'est quelque chose que j'ai lu il y a très très longtemps, mais qui m'a beaucoup beaucoup servi, notamment pour Maxime, pour mon fils, et aussi maintenant dans mes pratiques. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est des choses très très simples, c'est presque du bon sens. Ce serait presque du bon sens. Sauf qu'on l'a oublié, c'est parti sur d'autres choses, mais on l'a un peu oublié. Mais voilà.
Et le fait de... en fait, ce qui m'intéressait, c'est quand tu as parlé des cinq sens qui sont réactivés quelque part pour une personne, ça permet aussi de réactiver les hormones du bonheur dans le cerveau.
Oui.
Et plus, en fait, par exemple, plus le taux de sérotonine est élevé, plus on est heureux. Mm-hmm. Et il ne faut pas attendre quelque chose en particulier pour être heureux. En fait, ça commence dès maintenant.
C'est lui-ci maintenant.
Oui.
Le travail du coach...
Tu commences à sourire, es heureux.
Voilà. Mm-hmm. Le travail du coach, c'est le travail du ici maintenant. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le passé, on ne travaille pas forcément sur l'avenir, on travaille sur l'état de la personne dans le ici maintenant. Donc on l'ancre dans le présent avec ce qu'elle a de potentiel et avec tout ce que... Ce que l'on pose systématiquement lorsqu'on reçoit ou un dirigeant ou quand on travaille avec une équipe, c'est que toutes les personnes ont les ressources pour pouvoir se avancer et que c'est elles qui ont les solutions. Un coach ne travaille pas sur les, ne donne pas de solutions. Il accompagne la personne dans sa réflexion pour trouver ses propres solutions. Quelquefois, les solutions qu'il va trouver ce seront pas celles que moi j'aurais imaginées. Mmh. Mais ce sont les siennes. Il se les approprie, il les met en
tout
route.
Tout à fait.
Et, après, et le dirigeant, c'est pareil. On a énormément de dirigeants qui sont à la limite du burn-out. Beaucoup de dirigeants, moi j'en rencontre un grand nombre. Certains sont vraiment d'abord très seuls face à la décision qu'ils doivent prendre, face à la gestion de leur entreprise, et en même temps il faudra avoir 5 cerveaux, peut-être un peu plus même, pour pouvoir gérer tous les sujets qu'ils ont à gérer dans une même journée. Donc quelquefois ils sont vraiment sous pression. Donc c'est leur dire, lorsque moi je m'occupe d'un dirigeant, voilà, on va créer un espace qui est un espace d'accueil, je vous accueille dans un espace qu'on va créer tous les deux, et cet espace-là, il est pour vous. Mmh. C'est-à-dire que je lui donne l'habitude de prendre soin de lui. Donc ça veut dire que le matin, je lui dis, si vous dites des mauvaises choses sur vous dans la journée, c'est 1 € dans une tirelire pour voir le niveau de... Donc si, je suis idiot, je ne sais pas faire, tout ça, c'est... Vous oubliez. Votre cerveau, il vous croit quand vous dites des bêtises.
Et oui.
Il
ne
faut pas le dire. Voilà. Il faut dire que je vais m'améliorer, je vais y arriver, etc. Donc, c'est déjà le truc de base.
Ouais, la communication positive commence par soi-même.
Ben oui, ça, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est prendre conscience de sa respiration. Donc, quelquefois, je leur donne des petits tutos, des tout faciles pour pouvoir faire un peu... Entre guillemets, la méditation, c'est pas de la méditation, mais c'est au moins prendre conscience de soi, de prendre conscience de sa respiration, prendre conscience de l'état de son physique, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une tension à un endroit, est-ce que j'ai mal au dos, est-ce qu'éventuellement j'ai un genou qui me fait mal, voilà.
Être à l'écoute de son corps.
Ouais, ouais, ouais. On oublie complètement le matin de faire ça, alors que c'est la première base, c'est le scanner émotionnel et physique.
Et la cohérence cardiaque, voilà. Tu connais ?
Oui, tout à fait. Mmh. Je l'utilise quelquefois. Et en coaching d'équipe, je commence par... Quelquefois, il m'arrive de commencer par des petites choses comme ça, presque, enfin, je commence par m'occuper de leur physique et de leur émotion avant de commencer à travailler vraiment sur des problèmes, résolutions, etc. Donc, en fait, c'est un tout. C'est une approche qui est globale, en fait. Hein. On ne peut pas découper une personne en morceaux. Mmh. Lui dire, bon, t'es pro, donc tiens, ta tête, je la prends, on la met sur la table, elle se met à bosser, ouais. Le corps, on s'en fout. T'as mal au dos, démerde-toi avec ton dos.
Non, c'est pas
comme ça que ça marche. Quelqu'un qui a mal au dos, s'il prend des antalgiques, il va être à l'ouest toute la journée. Et quelqu'un qui a mal au dos, ben, il faut peut-être en tenir compte. Donc, quelquefois, dire, bon, ben, ok, t'as des problèmes, des soucis de dos ou d'autre chose, peu importe que...
Et tu penses qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont vraiment conscientes de tout ça et qui font des efforts.
Si on tient compte, moi j'ai des stats de gens qui travaillent, je travaille avec des gens qui travaillent à l'international aussi, qui travaillent sur des pays, qui travaillent donc sur tout ce qui est amélioration du travail dans l'entreprise et de l'état, le bien-être d'entreprise. On peut gagner en productivité, on peut aller jusqu'à 25%.
Et oui.
Donc quelqu'un qui
il y a
qui
une étude
bien, voilà.
Chez Johnson & Johnson, ils ont comme ça en fait économisé des millions de dollars.
Si on parle juste finance, c'est 25% de productivité.
Bien sûr.
Donc ça veut dire 25% de plus dans le compte de résultat à la fin. Donc quelqu'un qui gagne, voilà. Et donc ça, l'air de rien, c'est pas neutre, c'est vraiment pas neutre. Bon, après c'est quelque chose qui chemine. Je veux dire, ce que je disais tout à l'heure avant l'émission, c'est que je sème des graines, certaines pousseront, d'autres ne pousseront pas. Comme j'interviens aussi au niveau de certains masters, j'interviens sur le développement, le management, le leadership, etc. Donc certaines jeunes, je leur donne effectivement, je leur parle de tout ça. Il y en a certains, un jour, ils en auront besoin, ils iront chercher. D'autres, ça se potentialisera jamais. Mmh. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de tout ça.
Alors, est-ce que tu veux bien maintenant nous dire comment on fait pour te trouver ?
Quelles sont
les coordonnées ? Est-ce que tu as un cabinet quelque part ?
Alors, j'ai deux endroits où je pratique. J'ai mon endroit à Caussade, sur mon bureau à Caussade, mais c'est plutôt l'endroit, on va dire que c'est la Tanor, c'est là où je prépare toutes mes formations,
d'accord,
toutes mes interventions. J'ai un bureau sur Montauban, voilà. Et je suis associée dans une structure qui s'appelle Lune Bleue à Toulouse, qui est une structure coopérative avec un ensemble de personnes qui, donc on a trouvé un local maintenant, donc je pourrais intervenir aussi sur Toulouse. Mais en général, je vais dans les entreprises.
Oui,
très, très
oui,
souvent.
Oui.
Il m'arrive aussi de coacher en marchant. Parfait. C'est-à-dire que je demande à certains de mes cadres ou des dirigeants que je coach, prenez vos baskets, on va aller marcher.
Génial, on va respirer.
Voilà, on va aller respirer, on va aller écouter les oiseaux. Alors, quelquefois, ça les fait rigoler, mais... rigoler au départ. Mais après, ils disent, oh, j'aurais pas imaginé pouvoir vous dire tout ça. Voilà.
Donc, c'est en fait et déconnecter les choses. De toute façon, on mettra ton lien vers ton site. Oui. Dans le podcast.
Oui, oui, bien sûr.
Et voilà, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler dans les studios de Kailus à CFM Radio. Et puis, je te souhaite une très belle continuation dans le coaching professionnel, les neurosciences, tout ce qui te passionne et que tu fais très bien.
Merci.
Merci Nathalie, au revoir. Sans transition, je suis en train d'interviewer...